Bonjour à toutes et à tous et un grand merci au professeur Gowers pour son invitation et l'honneur qu'elle me fait. Mon titre, donc, c'est « Peut-on penser sans masque ?» Non, sans concept en mathématiques. C'est un titre un peu provocateur, c'est voulu, mais après un moment de réflexion sur le sujet, c'est plutôt broussailleux que paraîtra ce titre, ou plutôt embroussaillé, d'où la nécessité de commencer par débroussailler. Pour commencer, la formulation de mon titre suppose que l'on pense en mathématiques, avec ou sans concept. Je suppose en effet, et je tiens, que la mathématique est une pensée avant d'être une technique ou un jeu. Et je ne vais pas argumenter ce point de départ, ça m'emmènerait trop loin, et je l'ai fait d'ailleurs ailleurs. Mais comme me l'a enseigné mon collègue et ami Michael Harris, ici présent, il faut toujours commencer par dire d'où l'on parle, et donc d'où l'on part. Cette excellente maxime déictique est la leçon pratique que j'ai retenue de la tradition philosophique analytique. Voilà qui est fait. Si la mathématique est une pensée, peut-on penser en mathématiques sans concept ? Ce n'est pas une réponse par oui ou par non que cette question appelle. Ce sont plutôt les réponses diversifiées et affinées qui vont porter la question, lui donner une portée. Évacuons donc tout de suite les réponses immédiates trop superficielles. Par exemple, pense-t-on avec des concepts ou même pense-t-on tout court quand on effectue des calculs ? Évidemment, pas toujours. Une bonne partie des calculs se fait dans le cadre d'un formalisme et d'une notation qui ont explicitement pour but une économie de la pensée. Et là où cette économie atteint pleinement son but, il s'agit de calculs de routine, le quotidien du praticien, indispensable dans sa pratique, tant pour l'utilité des résultats, comme test ou comme illustration d'une théorie, que pour l'entretien et l'affinement d'une technique. Pour autant, d'autres calculs vont bien au-delà de la routine. Ils impliquent et même suscite de nouveaux concepts. Il ne s'agira donc pas d'opposer ici les calculs aux concepts et de reprendre le dicton romantique bien dépassé, remplacer les calculs par des idées. Par ailleurs, reconnaissons d'emblée que le mot même de concept n'est pas d'un usage fréquent dans la pratique mathématique. Cette réserve nous préserve du dévoiement ad nauseam du mot concept que nous subissons dans la vie quotidienne. Dans la vie parisienne d'Offenbach, la gantière et le bottier n'étaient que d'aimables solliciteurs. Devenus riches, nos maroquiniers sont aussi devenus des créateurs, et même aujourd'hui des créateurs de concepts. Passons. Si le mot « concept » n'est pas d'usage fréquent dans la pratique mathématique, où on lui préfère celui de « notion », il n'en est pas moins commode pour désigner des entités qui sont plus générales que les notions mathématiques usuelles circonscrites par des définitions. Par exemple, les concepts d'espace, d'action, de dualité, de singularité, etc., sont d'un usage presque universel en mathématiques, mais ce ne sont pas des notions circonscrites par une définition. Ou plutôt, ces concepts ne s'incarnent en des notions précises que selon les différents domaines mathématiques où elles interviennent. Et même dans les époques les plus dogmatiques de son histoire, la mathématique a sagement renoncé à transformer ses concepts généraux en notions. Elle a renoncé à en tracer a priori les frontières pour en préserver la fécondité, la souplesse, l'universalité et les métamorphoses. C'est donc de concepts mathématiques en ce sens général que je parlerai. Mais d'un autre côté, il ne s'agira pas de balayer en ignorant toute une tradition de philosophie mathématique qui place le concept au centre de sa réflexion. À titre personnel, ce geste de grand seigneur balayeur m'a toujours paru suspect. Et je le trouverais particulièrement déplacé dans cet établissement dont la devise est « Docet omnia ». C'est pourquoi je commencerai par dire quelques mots de la philosophie du concept de Jean Cavaillès, philosophie qui a été méditée et commentée en profondeur par deux professeurs au Collège de France, Jules Villemain et Gilles-Gaston Granger. Dans son grand texte posthume sur la logique et la théorie de la science, Cavaillès défend en effet une philosophie du concept contre une philosophie de la conscience, en vue d'élaborer une doctrine de la science. Il se déclare spinoziste, et par là attaché à l'enchaînement objectif des causes et des raisons, mais contre le cogito de Descartes. Contre aussi la phénoménologie de Husserl et sa superposition de descriptions d'action de conscience d'un sujet transcendantal. Enfin, contre aussi les visions historicistes. Il dit que tout ne soit pas d'un seul coup, n'a rien à voir avec l'histoire, mais est la caractéristique de l'intelligible. Les deux piliers de son analyse épistémologique sont, un, le paradigme, deux, la thématisation. Ce sont ces termes. Le premier, le paradigme, évoque l'élévation conceptuelle par abstraction et généralisation des objets. La seconde, la thématisation, évoque une démarche plus réflexive face aux processus et trajectoires conceptuelles. Mais mon propos sera loin d'une glose dans le sillage de cette tradition, bien que celle-ci éclaire de loin mon propos, qui invite en retour à la revisiter de manière critique à l'aune de la pratique mathématique contemporaine. La revisiter, ou même la déstabiliser, en un sens positif, s'il est possible. Si je m'en écarte de cette philosophie du concept dans ce qui va suivre, c'est pour trois raisons. Premièrement, parce que même si Cavaillès ambitionnait de saisir la pensée mathématique en mouvement, il se séparait assez vite de sa pratique, et ses glossateurs davantage encore, en posant que la nécessité génératrice en mathématiques n'est pas celle d'une activité, mais d'une dialectique. Je cite Cavaillès. Son disciple Albert Lotman, avec ses idéalités dialectiques, se souciait davantage de rendre compte de la pratique mathématique de son époque, en l'embrassant très largement. Encore aujourd'hui, les mathématiciens de ma connaissance qui ont lu Lotman et un peu Cavaillès se sentent de plein pied avec le premier, mais peu avec le second. Deuxièmement, parce que je me propose justement d'examiner des situations mathématiques inédites où le statut du concept ne cadre guère, on le verra, avec la dialectique paradigme-thématisation de Cavaillès. Troisièmement et surtout, parce que le développement foisonnant des mathématiques ne permet plus de croire qu'il repose sur le seul mouvement d'élévation conceptuelle et sa thématisation réflexive qui sont privilégiés dans cette tradition. Au contraire, la quête de l'intelligible mathématique s'appuie sur une dynamique de va-et-vient entre avancées conceptuelles et retombées applicatives. Ici, retomber ne signifie nullement une chute d'Icare du ciel des idées, mais ce mouvement essentiel par lequel les idées essaiment, se concrétisent et fécondent d'autres territoires mathématiques. Une philosophie de la pratique mathématique ne peut faire l'économie de ce mouvement, que je ne retrouve guère chez Cavaillès, moins encore chez ses commentateurs. Après ce long débroussaillage, venons-en à notre propos. Je vais présenter trois situations délicates où la mathématique est aux prises avec ses concepts. Chacune de ces situations est historiquement significative. J'ajouterai des épisodes narratifs pour me faire pardonner ce prologue, sans doute bien trop court pour être goûté des philosophes, bien trop long pour l'être des mathématiciens. Voici mon plan. D'abord, je parlerai de patience du concept et impatience de comprendre, et des ruses de la raison. Deuxièmement, je regarderai ce qui se passe quand deux concepts clairs se combinent en un concept obscur. Troisièmement, j'examinerai les disparités entre les domaines mathématiques où l'on trouve dans certains luxuriance conceptuelle et dans d'autres frugalité. Donc, le premier point, patience du concept et impatience de comprendre, les ruses de la raison, dans le cas de la conquête de la maîtrise de l'infini. Alors, patience du concept et ruses de la raison sont des expressions qui se rapportent bien sûr à Hegel, lequel fera bientôt, d'ailleurs, une apparition caméo. Quant à l'expression impatience de comprendre, elle est due à l'écrivain Hermann Broch. Et la tension entre les deux, patience du concept et impatience de comprendre, a déjà été bien thématisée, mais c'est dans le cadre d'une aventure mathématique que je voudrais l'examiner à nouveau frais. Alors, cette aventure, c'est, comme je l'ai dit, la conquête mathématique de l'infini qui durera plusieurs siècles. L'histoire est bien documentée, chacun ici la connaît sans doute. C'est pourquoi j'irai vite en me concentrant sur ces aspects plus méconnus. On sait que l'Antiquité grecque se méfiait de l'infini, la péronne, comme gouffre de la raison. On sait que la géométrie euclidienne n'était pas du tout une science de l'espace, c'est là une notion moderne, mais une science des configurations finies, qui pouvait toutefois être étendue ad libitum selon la nécessité des constructions. On sait qu'Aristote a introduit cette distinction fondamentale entre potentiel, c'est-à-dire en capacité, et actuel, c'est-à-dire en effet, au livre d'état de sa métaphysique, et qu'il l'a appliqué, au livre 3 de sa physique, à l'infini. Infini potentiel, infini actuel. Distinction qui a marqué, peut-être aussi bloqué, mais en tout cas orienté, pendant plus de deux millénaires, la réflexion sur l'infini. La scolastique médiévale s'est emparée de cette distinction en la radicalisant, en identifiant infini et absolu. Voilà l'infini métaphysique. Pour mieux situer les développements futurs, du point de vue de mon exposé, il me faut d'abord camper brièvement cet infini métaphysique. Le dictum scolastique infinitum actu non datur, il n'y a pas d'infini actuel sur Terre, n'allait pas sans discussion, et ceux qui s'appelaient les maîtres des arts, au XIIIe siècle, les maîtres des arts parisiens sous l'égide de Sigère de Brabant, avec l'influence derrière d'Averroès et la théorie de l'émanation néoplatonicienne, avaient l'outrecuidance de poser des questions du genre suivant. Si l'infini actuel divin émane dans le monde est-il éternel au passé comme au futur? Pour les faire taire ou pour les confondre, On invita Thomas d'Aquin à Paris et il tâcha de les confondre, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de sympathie intellectuelle. En fait. Ceux qui aiment à lire les comptes rendus de rencontres philosophiques trouveront le compte rendu de celui-là au chant 10 du paradis de Dante, qui raconte cette rencontre. Et hélas, les foudres de la Sorbonne ne se firent pas attendre et frappèrent toute la communauté intellectuelle, et ceci par deux fois, en 1270, en 1277. L'évêque de Paris, Tempier, condamna une liste de 232 thèses. Pour la plupart, il s'agissait de celles des amis de Cigère, mais il y avait aussi 20 thèses de Thomas d'Aquin, contre lequel un procès en hérésie fut lancé. Thomas d'Aquin s'en est bien tiré, en mourant sur le chemin de Rome, en allant défendre son cas auprès du pape. Et c'est sans doute l'unique cas, l'unique exemple d'un saint, qui plus est docteur de l'Église, qui soit mort non pas en odeur de sainteté, mais en odeur d'hérésie. Quel était donc le motif central de ces anathèmes, ceux de Tempier ? Eh bien, le principe que l'infini actuel n'a pas d'existence terrestre, excepté en un tout petit nombre d'exceptions théologiques explicites. L'incarnation du Christ et l'annonciation à la Vierge, moment où, dans la théologie chrétienne, l'infini divin rencontre le fini humain. Hors de là, hérésie et bûcher. Condamnations qui ont encore frappé bien longtemps après, mais qui ont aussi inspiré aux peintres, notamment les peintres siennois du XIVe siècle, comment transmettre en images aux fidèles à la fois la dite bonne nouvelle et l'anathème qui l'accompagnait. C'est ainsi qu'on a vu naître à Sienne, tout particulièrement, des décennies avant la perspective florentine, une perspective où les lignes de fuite convergeaient toujours vers le Christ colonne de l'Église et où les points de fuite étaient la Vierge pleine de grâce, en miniature. On sait que bien plus tard, un certain Desargues a cru ses yeux et a voulu croire que les droites parallèles se rencontraient bel et bien à l'infini. Mais on oubliera bien vite son brouillon projet, écrit dans la langue de bois des compagnons charpentiers. À la même époque, toutefois, la question de l'infini redevenait brûlante pour une toute autre raison, celle du problème galiléen de la géométrisation du mouvement. Le problème était inévitable et forçait les savants de l'époque, bien malgré eux pour la plupart, à repenser l'infini dans le cadre d'une intelligibilité géométrique. L'état d'esprit général était pourtant celui exprimé par Descartes. Il ne faut point tâcher, dit-il, de comprendre l'infini, mais seulement de penser que tout ce en quoi nous ne trouvons aucune borne est indéfini. La démarche fut donc lente et prudente. Il s'est d'abord agi de bien distinguer l'infini de l'absolu, abandonnant l'absolu à la métaphysique et à la théologie, et tâchant d'apprivoiser l'infini du côté de la rationalité géométrique. On s'aperçut que la tâche s'allégeait lorsqu'on traitait de l'infiniment petit, l'absolu théologique n'ayant pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà sans doute la première ruse de la raison mathématique pour s'affranchir de l'infini métaphysique. La seconde ruse de la raison mathématique pour conquérir l'infini, et d'abord l'infiniment petit, ce fut au XVIIe siècle d'éviter les apories en renonçant à créer un concept de l'infini au profit d'un calcul de l'infini. Ce que nous appelons encore aujourd'hui le calcul infinitésimal. Cela signait l'abandon provisoire du concept paradoxal des indivisibles au profit d'un calcul et d'un système de notation permettant ce calcul. Au XVIIIe siècle, la patience du concept vis-à-vis de l'infini ne s'est toujours pas démentie. En dépit de l'immense développement que Euler, Lagrange et d'autres donnèrent à l'analyse, sans revenir sur les vieilles apories, bien au contraire. Du côté de Euler, sa mise définitive de la notion de fonction au centre des mathématiques et ses incroyables bonds en avant, bien en avance sur son temps, comme l'anticipation des développements asymptotiques dans son article « De seriebus divergentibus » de 1760. Du côté de Lagrange, la volonté de se passer de tout concept de l'infini, comme le clame le titre de son fameux livre « Théorie des fonctions analytiques contenant les principes du calcul différentiel, dégagé de toute considération d'infiniment petit ou d'évanouissant, de limites et de fluxions, et réduits à l'analyse algébrique des quantités finies », publié en 1797. Un livre avec un titre qui décrit surtout ce qu'il n'y a pas dans le livre. Le bilan philosophique de cette aventure intellectuelle, à ce moment précis, a été tiré par Hegel. Contemporain et lecteur informé de Lagrange, dans un passage célèbre de sa Science de la logique, il y oppose l'infini métaphysique, qu'il appelle le mauvais infini, à la vision d'un bon infini que les mathématiciens ont dégagé, dont il voit que l'infini véritable est à son fondement, mais Hegel n'accorde pas à la mathématique le privilège du concept de ce bon infini. Il réserve à la philosophie la tâche de cette conception à partir de ce que les mathématiciens ont dégagé en se privant consciemment d'en formuler le concept. On a donc ici une réponse provisoire à la question titre de l'exposé. Oui, on peut penser l'infini sans concept de l'infini. On peut même s'en vanter, comme Lagrange, qui concluait, après son ouvrage, qu'il reste peu de moyens de faire de grands progrès avec l'analyse. Mais c'était trop beau, ou trop triste. Heureusement, Bolzano, Cauchy et d'autres trouvèrent successivement des failles, les réparèrent, et les réparèrent si bien qu'il ne restait plus sur ces questions millénaires, à la fin du XIXe siècle, qu'à forger un authentique concept du continu. C'est, comme on sait, à ce moment-là que le loup de l'infini actuel s'engouffra définitivement dans la bergerie mathématique. Mais la lente et rigoureuse mise en place d'un calcul, cette ruse de la raison victorieuse s'appuyant sur une invraisemblable patience du concept face à l'impatience du comprendre, avait par avance domestiqué le loup. Il ne fit donc pas de ravages, bien au contraire. Changeons de scène, je reviens à mon point numéro 2, quand deux concepts clairs se combinent en un concept obscur. Les deux concepts clairs dont je vais parler sont ceux d'action et de dualité. Concept clair et universel en mathématiques. Et la question que je vais poser, c'est qu'est-ce que coagir ? Ces concepts, action et dualité, étaient déjà discutés par Aristote et Platon. Et leur apparition en mathématiques ne date pourtant, curieusement, que du XIXe siècle. La dualité dans les travaux de Poncelet en géométrie projective vers 1820 et l'action à partir des travaux de Galois. Ils sont devenus des universaux mathématiques, tout en restant très proches de leur signification heuristique originelle. Quelles qu'en aient été les métamorphoses, et d'où leur fortune. Je m'y arrêterai donc à peine concernant l'action. Il ne s'agit pas, bien sûr, de celle d'un géomètre traçant une figure, mais de celle d'un objet mathématique agissant sur un autre. Souvent, depuis Galois, l'agent est un groupe G, disons, qui agit sur un espace X, donnant une transformation G croix X vers X, ou dans le contexte voisin des algèbres et des modules A tenseur V vers V. Le 19e siècle, puis le 20e siècle, ont découvert la ressource inépuisable qu'offraient ces stratégies, étudier G en le faisant agir sur diverses cibles bien choisies. Ce n'est là que le béaba d'un théâtre galloisien régi par le principe de correspondance entre symétrie et invariant. Théâtre où se joue aussi bien le programme d'Erlangen-Klein pour classifier les géométries que les théorèmes d'Eminoter sur l'équivalence entre lois de conservation et invariance des lois physiques en ce qui concerne la symétrie. Bref, un concept clair mais très profond. Quant à la dualité, elle quitta tôt le berceau de la géométrie projective pour essaimer dans toute la mathématique, sans jamais perdre son sens heuristique originel, même si on a dû distinguer peu à peu entre dualité entre objets et dualité entre notions. Dans sa nudité catégorique, la dualité, c'est le renversement des relations, tous objets préservés. Quand on en vient à combiner la notion d'action et de dualité, on obtient la notion de coaction. Au lieu d'une algèbre A, on a une cogèbre C, et au lieu d'une action A tenseur V vers V, l'action d'un élément petit a de A sur un élément petit v de V, on a une coaction. Donc une flèche de V vers C tenseur V. Mais d'abord, pourquoi combiner ces deux notions? Eh bien, parce que la topologie algébrique et la théorie des groupes nous y invitent naturellement et fortement. L'homologie fournit des cogèbres via la diagonale, de même que les fonctions sur un groupe via la convolution. Face à cette combinaison de concepts pas du tout artificiels, on peut se demander, donc sans artifice, qu'est-ce que coagir? Certes, ce n'est ni agir, ni pâtir, puisqu'il n'y a plus d'agent, ni même de patient identifiable. Ce n'est pas non plus réagir, qui est encore de l'ordre de l'agir. On est donc face à un concept bien défini, directement dérivé de deux concepts clairs mais sans contenu intuitif, situation fort embarrassante que résumait ainsi Jean-Pierre Serre. Tout calcul relatif au cogèbre est trivial et incompréhensible. Nous nous trouvons là dans la situation inverse de celle précédemment évoquée, dans la conquête de l'infini, où l'on aboutissait à un concept après la longue mise au point d'un calcul et l'élucidation de ses aspects heuristiques. Ici, on part au contraire d'un concept bien défini, mais les calculs se font à l'aveugle, qui requiert à rebours même une bonne notation pour les effectuer, comme la notation de Swidler. Certes, c'est la pratique qui forge une intuition, et je crois qu'en combinatoire, Giancarlo Rota a habitué ses praticiens au cogèbre. Mais la pratique suffit-elle? On voit bien dans l'exemple de l'homologie et en lisant Serre que non. Allant plus loin dans cette quête de sens, c'est l'informatique théorique qui a ouvert des aperçus en élargissant les notions d'algèbre et de cogèbre. un endofoncteur F d'une catégorie étant donnée, une algèbre au sens généralisé des informaticiens, théoriciens, est un morphisme FA vers A, ou A est un objet de la catégorie, le cas classique étant celui où l'endofoncteur F est le carré tensoriel. Cette notion d'algèbre généralisée et d'action, fort pertinente en informatique théorique, rend compte de la notion de processus. Dualement, on a la notion généralisée de cogèbre, qui est un morphisme C vers FC. Et cette notion généralisée de coaction rend compte de la notion d'état d'un système, ou plutôt de ses fluctuations. Ce point de vue est plus profond qu'il n'y paraît. Il permet d'interpréter, par exemple, en termes d'algèbre généralisée, l'axiome de fondation de la théorie des ensembles, celui qui interdit tout cercle vicieux. Soit. Mais qu'en est-il alors du point de vue dual des cogèbres généralisés dans ce contexte? Eh bien, il permet d'interpréter un certain axiome d'antifondation qu'ont proposé dans les années 1970 Marco Forti et Fourier-Hounsell à la base d'une théorie hétérodoxe des ensembles qui permet tous les cercles vertueux, non paradoxaux. Ces cercles vertueux qui sont si utiles en informatique théorique. Bien qu'en contradiction l'un avec l'autre, l'axiome de fondation et l'axiome d'antifondation sont en dualité. Et la situation s'avère en fait semblable à celle bien connue des géométries euclidiennes et non euclidiennes, qui s'excluent en présence l'une de l'autre, mais peuvent se mirer l'une dans l'autre. Que voit-on là pour conclure? Que la chimie des concepts mathématiques est décidément difficile. En combinant deux des plus clairs, on peut obtenir un nouveau difficilement appréhendable. Que seules ces métamorphoses ultérieures permettent d'éclairer, au terme d'imprévisibles vagabondages, aux frontières de la mathématique. On ne voit là aucune élévation conceptuelle, mais une migration aussi imprévisible qu'étonnante. Changeons encore de scène. J'aborde mon troisième point. J'ai intitulé « Luxuriance ou frugalité conceptuelle » à propos de gloire et de déboire de la transcendance. Donc l'arrière-plan de cette troisième et dernière scène, c'est celui des grandes inégalités qui règnent entre les divers domaines mathématiques en ce qui concerne les concepts. Certains en sont dotés à profusion. Un cas extrême est celui de la géométrie algébrique. L'état présent du domaine a été façonné il y a une soixantaine d'années par Grothendieck, grand créateur de concepts mathématiques s'il en fut. On a pu reprocher à ces éléments de géométrie algébrique leur air d'interminable lexique, sans aucun exemple ou presque. Voilà donc un domaine mathématique où la question de mon titre admet clairement une réponse négative. Il n'est plus possible de penser sans concept en géométrie algébrique. Et un pur géomètre algébriste ne pourra que trouver saugrenue cette question du titre. Mais je vais m'intéresser à la situation opposée. Y a-t-il des domaines qui ne possèdent pas de concept propre? Il semble bien que oui. Telle est, à mon avis, la théorie des nombres transcendants, qui n'a d'autre concept propre que celui de transcendance qui lui donne son nom. On dira que c'est là un avis culotté de la part de quelqu'un qui a pratiqué cette discipline qu'il a en retour beaucoup inspirée dans d'autres domaines. Et cet avis a écorché les oreilles de quelques non-spécialistes, mais pas du tout celle des théoriciens des nombres transcendants auxquels je m'en suis ouvert, qui semblaient plutôt acquiescer. C'est sous cet angle que je vais examiner ce domaine et le questionner. D'abord, y pense-t-on sans concept, vraiment? Et deuxièmement, pourquoi n'y a-t-il pas de concept propre? Un domaine mathématique peut-il vivre sans concept propre? La réponse à la première question est bien sûr négative. La théorie des nombres transcendants utilise bien des concepts, mais ils sont venus d'ailleurs. Elle les applique à ses techniques propres. C'est la question seconde qui est intéressante. Et pour l'aborder, il faut revenir aux origines. Le concept mathématique de transcendance a été introduit par Leibniz. Il faut se rappeler qu'on parlait à l'époque de grandeur, pas encore de fonction, la notion de fonction n'étant pas dégagée, il faudra attendre l'époque de Euler. D'où maintes ambiguïtés déroulant de la confusion, comme nous dirions aujourd'hui, entre nombre et fonction. Pour donner une idée, mais de manière très anachronique, avançons que Leibniz est celui qui a énoncé le premier résultat de transcendance. Il a démontré que les fonctions trigonométriques, qui n'étaient pas encore identifiées comme fonctions, sont transcendantes, c'est-à-dire ne vérifient aucune équation polynomiale. Pour gommer cet affreux anachronisme, reprenons tout de suite l'histoire du sujet, quelques années plus tard, avec un lemme de transcendance beaucoup plus impressionnant, dû à Newton. Et que voici, non pas dans le latin original, mais dans les termes de la traductrice idéale, la marquise du Châtelet. Il s'agit du lemme 28 des Principia de Newton. Je cite, « Les parties quelconques de toute figure ovale, déterminées par les coordonnées ou par d'autres droites tirées à volonté, ne peuvent jamais être trouvées par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions. » Que veut dire là Newton avec les mots d'aujourd'hui ? Être trouvé par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions, ça veut dire les solutions d'aucune équation polynomiale, donc est transcendante, au sens de Leibniz. Les parties quelconques de toute figure ovale déterminée par les coordonnées ou par d'autres droites tirées à volonté, c'est la portion d'air de l'ovale déterminée par une droite variable. Mise bout à bout, ces deux moitiés de l'assertion, on obtient que la portion d'air de l'ovale découpée par une droite variable est une fonction transcendante des paramètres qui définissent la droite. Ce lemme a fait couler beaucoup d'encre pendant 3 siècles, et pour 2 raisons au moins. D'abord, sa place dans le dispositif des Principia, parce que via la seconde loi de Kepler, il implique que la position d'une planète sur une orbite elliptique, le cas où l'ovale est une ellipse, n'est pas, même localement, fonction algébrique du temps. Comme on ne peut pas donner une formule, calculer algébriquement la position d'une planète en fonction du temps, ce corollaire sert d'excuse à Newton pour introduire ces fameuses méthodes approchées, la méthode de Newton, encore enseignée aujourd'hui dans toutes les universités du monde. Voilà 3 pages éclatantes des Principia qui ont orienté toute la mathématique et qu'il faut absolument lire. Ensuite, le statut de ce lemme de transcendance. Voilà un lemme si général et étonnant qu'il n'a pas échappé à la critique serrée des 2 premiers lecteurs des Principia, Huygens et Leibniz. Ceux-ci, qui étaient peut-être déjà sérieusement brouillé avec Newton, en parle entre eux et engage une formidable correspondance autour de ce lemme. Huygens évoquait d'abord les contre-exemples. Prenez un triangle, vous verrez bien que la portion d'air découpée par une droite variable dans ce triangle est clairement une fonction algébrique des paramètres de la droite. De même, si on prend deux arcs de parabole raccordés, on a un contre-exemple facile. Leibniz objecte que Mr. Newton n'aurait pas considéré un triangle comme un ovale, ni même les arcs de parabole, à cause des deux points singuliers. Mais, outre la notion d'ovale, il cherchait à comprendre l'autre point obscur de l'énoncé. Le mot « jamais » du « ne peuvent jamais être trouvés ». S'ensuivit une réflexion de fond sur la transcendance des airs, et Leibniz semble avoir même deviné, au cours de cette réflexion, la transcendance de celle du disque inité, donc la transcendance de ce que Euler notait pi, qu'on note toujours pi, et il est allé beaucoup plus loin. Tel est le début de la transcendance. Mais à propos, qui avait raison finalement de Newton ou de ses contradicteurs, Huygens et Leibniz, sur ce fameux lemme 28? Eh bien, on en a débattu 300 ans. Et c'est Vladimir Arnold qui a finalement tranché, vers les années 70. Il a tranché en faveur de Newton, en réécrivant soigneusement sa démonstration en termes modernes, et en convenant qu'ovale signifie courbe, convexe, lisse. Lisse, c'est infini. C1 ou Cn ne suffirait pas. Arnold a donné des contre-exemples. Tel fut donc le début de la transcendance. La distinction ultérieure entre transcendance de fonction et transcendance de nombre a clarifié bien des malentendus, mais elle a aussi brisé l'union profonde de ces deux cas. La transcendance fonctionnelle est un sujet foisonnant, toujours de grande actualité. La transcendance numérique, elle, a toujours paru plus difficile et même souvent inaccessible. Son plus haut fait est la démonstration par Lindemann de la transcendance de pi, comme Leibniz l'avait pressenti, ce qui réglait définitivement le problème de la quadrature du cercle. La théorie s'est beaucoup enrichie depuis en technique et en résultats, mais pas en concept propre. Pourquoi ? Je ne sais, en fait. Je doute qu'une approche sociologique évoquant les pratiques de la communauté des nombres transcendants, dans laquelle on n'entraîne à guère que si l'on avait trouvé un nouveau nombre transcendant, ne donne jamais la réponse. Mais un constat s'impose. Le XXIe siècle ne semble pas avoir produit de nouveaux nombres transcendants. La théorie semble en sommeil. Qui réveillera la belle au bois dormant? Mais revenons à notre propos général. Ce sommeil serait-il dû à une carence de concepts propres? Eh bien, je ne crois pas. Comparons en effet cette situation à celle de la géométrie diophantienne, un domaine assez proche. Celle-ci est tout à fait florissante aujourd'hui. Mais elle ne dispose que d'un seul concept propre, celui de hauteur, dû à son auteur Weyl. Il est vrai qu'elle emprunte tant et plus de concepts à tant de théories diverses. Une autre chose frappe dans l'histoire de la transcendance. Les nombres dont on s'occupe sont des nombres très particuliers. Ce sont en gros, et déjà dans les méditations séminal de Leibniz, des aires de domaines algébriques définis par des inégalités algébriques à coefficients entiers, ce qu'on appelle, ce que les géomètres algébristes appellent des périodes. On complique quelquefois l'affaire en introduisant une exponentielle. Passons. Les règles standards du calcul intégral produisent des relations entre ces aires, entre ces nombres, entre ces périodes. Et Kantsevich a proposé en 98, je crois, une conjecture qu'aurait presque pu formuler Leibniz en son temps, qui consonne tout à fait avec ce principe leibnizien de raison suffisante. Voici la conjecture. Toute relation entre périodes provient des règles élémentaires du calcul intégral. Voilà donc une théorie, la transcendance, qui bénéficie comme aucune autre d'une boussole simple et on ne peut plus conceptuelle, mais qui ne parvient pas à tirer le moindre bénéfice de cette boussole. La patience de comprendre aura-t-elle raison dans cette situation de l'impatience du concept ? Voici venu le moment de conclure. Mais comment résumer un tel sujet ? Penser sans concept en mathématiques. Eh bien, pourquoi pas, comme dans un opéra bouffe, en réunissant sur scène, en finale, tous les protagonistes, morts ou vifs. Cela donnerait ceci. Les voilà tous. La gantière et le bottier saluent et puis s'embrassent. Cavaillès, qui s'est brouillé avec Leibniz, ne salue personne. Mais on l'entend dire à son ami Lautmann que la monadologie lui fait penser au calvinisme des marchands de cochons américains. Quel culot! Aussitôt, Spinoza leur abroue. Ne pas rire, ni pleurer, ni détester, mais comprendre. À ces mots, la gantière sourit. Des arbres qui passaient par là faillit la croiser à l'infini. Mais c'est l'évêque Tempier qui l'y attendait. Il fulmine et gondane toujours le triste sire, et on l'entend tonner contre Forti et Hansel. Indifférent, Euler et Lagrange se promènent en rêvant au développement asymptotique de leur chère équation, après la leçon des minotaires. Kantsevich est excusé. Il joue ce soir au théâtre de l'action la pièce Géron F. D'abord F, G après. Mais combien de temps après, demande un spectateur qui pense à son souper. Voilà enfin Hegel, tout pensif. Il s'apprête à confier à sa chouette que le concept du bon infini appartient à la mathématique. Je vous remercie.